Je m'en rappelle très bien, mais non, cette année-là, c'est pas possible, tel groupe n'existait pas. Mais si, je les ai vus, au bus Palladium. Non, non, non. On l'avait déjà démoli. Non, ça, c'est peut-être un effet de l'alcool, mais les faux souvenirs.
Ouais, je pense qu'on sera tous là ce soir pour te regarder.
Et on te remercie de nous avoir accordé ce moment précieux. Merci beaucoup.
De rien, de rien.
Je crois qu'on peut applaudir Vincent. Merci. On enchaîne. Alors, c'est Pierre qui va.
Alors, avec un petit peu d'avance, on va enchaîner, ce qui est, je pense, historique. Ouais. Donc, pendant qu'il s'installe, donc, je vais vous présenter le prochain intervenant. Donc, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois au sein de PIND Luc Valla, qui nous vient de l'Université de Berne, où il a commencé une thèse il y a quelques mois sur... En musicologie sur la chanson française à la Renaissance. Et voilà. Et c'est une thèse qui est en co-direction avec l'Université de Poitiers.
J'ai juste besoin de quelques minutes pour m'installer. En fait, est-ce que je pourrais brancher mon ordi sur le.
J'imagine qu'on peut tirer.
Et le son aussi.
Est-ce que Nicolas veut improviser pour meubler en attendant la.
C'est pareil pour le son si tu.
Sinon, ouais.
Ça marche ou pas?
Non, je ne pouvais pas en fait.
C'est pas mon ancien.
Non, moi je vais le mettre là-dessus.
Ouais, mais par contre,
pour le son, je sais pas si ça que j'ai.
C'est pas la bonne, ça. Hein.
C'est pas la bonne.
C'est celle-là. Ça, c'est pour l'image. Le son, si t'as pas le son pour brancher l'œuvre. Est-ce que t'as une clé?
Ouais, je suis en train de mettre sur la clé.
Peut-être c'est pas trop loin de le transférer.
C'est bon. C'est juste, j'espère que le son du PowerPoint va fonctionner. Mais on verra.
Au pire, on mettrait le micro sur la.
Ça va aller.
Voilà, un petit peu de patience, ça va commencer dans quelques secondes.
Non, quand il fait 3 minutes, c'est bien. Mais de toute façon, je vais me chronométrer. Allez, fais-moi un signe. Merci.
Voilà, je lui cède la parole.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour la présentation et merci aux organisateurs de m'avoir permis de participer à cette journée d'études. Et je vais donc présenter cette communication que je vais mettre en plein écran, c'est mieux. Voilà, cette communication intitulée « Nadou et Namestre, identité bretonne et revendication punk des ramoneurs de menhirs ». En 2006, Laurent Catracazos, alias Laurent Berru, ancien membre de Berrurier Noir, fonde les Ramoneurs de Menhir. Alors qu'il tient à la guitare et la boîte à rythme, un chanteur et deux sonneurs constituent le reste de la formation. Dans son récent ouvrage « Nos futurs, une histoire du punk », Caroline de Kergariou déclare que, je cite, « le côté insoumis de Laurent rejoint la rébellion celtique éternelle ». Fin de citation. L'insoumission punk et la rébellion celtique évoquée mériteraient évidemment des définitions plus amples, et la proximité de l'auteur avec la mouvance punk induit certains biais. Mais cette affirmation témoigne de la conception actuelle de deux cultures à l'identité fortement marquée et de leur rencontre. En Bretagne, dès la fin du XXe siècle, je cite, les références celtiques, loin d'être enfermées dans des formes anciennes d'expression folklorique, se conjuguent à l'idéologie la plus moderne du métissage culturel et de l'ouverture aux autres. Fin de citation de Berthold Avenir. Et ce sont les musiciens du renouveau celtique du siècle passé, à l'image d'Alan Stivell, qui, tout d'abord, ont intégré à leur musique présentée comme traditionnelle des éléments de modernité, avant que les musiques actuelles n'effectuent le chemin inverse, à l'instar des rappeurs de Mano, par exemple. Les menhirs prennent place dans la continuité de ces métissages, revendiquant, au-delà des genres musicaux, les pendants identitaires et militants de leurs influences. Cette communication propose de questionner les perceptions de tradition et de culture punk et bretonne en partant des conceptions évoquées par les membres des Ramoneurs de menhirs et en les réinscrivant dans une sphère artistique et culturelle globale. Lors d'une interview réalisée en 2015, Laurent Berru proclame, je cite, « On est un groupe de traditionnels bretons, de culture celte, et on adapte ça à un son très punk rock. C'est une mixture entre l'insoumission bretonne et l'insoumission du punk rock. » La plupart de nos morceaux sont en breton, ce sont des morceaux traditionnels de danse. On fait du punk nose. Fin de citation. La tradition est revendiquée comme un élément constitutif majeur de la dynamique des menhirs. Si celle-ci puise principalement dans la culture bretonne, elle va parfois chercher sa source au sein d'un répertoire plus éclectique, comme le chant de révolte italien Bella Ciao ou le révolutionnaire ukrainien Makhnovchina. La chanson « Ibrahim » des menhirs est basée sur le traditionnel hébraïque « Ava Nagila ». Je mets des guillemets à « traditionnel ». Alors qu'une première partie est en français, une seconde est chantée en breton et est un hommage explicite à la lutte des Palestiniens d'après le poème « Carte d'identité » de Mahmoud Darwish. La langue bretonne, souvent employée par les menhirs, se pose en tant que volonté d'ancrage et de conservation patrimoniale tout en se distinguant de la langue nationale. Cependant, dans toute la région, le breton n'est plus, je cite, « un moyen primaire de communication hors des cercles propres aux militants ethno-linguistiques ». Fin de citation de Arganeghi et Cole. Le refrain de la chanson originale, donc du Ava Nagila, est adapté mélodiquement par les menhirs, adaptation qui apparaît déjà sur l'album « Abracadaboum » de Berrurier Noir. Dans celui-ci, comme dans la reprise des menhirs, le mode mixolydien de la gamme mineure harmonique originelle est remplacé par une gamme majeure, la mélodie s'en retrouvant modifiée comme suit. Alors, donc, en haut, on a ce fameux mode mixolydien mineure harmonique, ou B9, B13, ou phrygien majeur, mais ça c'est égal. Pardon ? Oui, alors c'est simplement en fait un mode qui... On part de la gamme mineure harmonique, donc qui est une gamme spécifique avec les intervalles qui lui sont spécifiques, qui sont donc du coup une organisation d'intervalles qui sera différente des intervalles de l'organisation d'intervalles de la gamme majeure. Et en fait, le mixolydien, c'est simplement qu'on va partir du sol, et en fait, là, je l'ai retransposé en la... c'est un peu technique, ce sera le seul passage musicologique technique de cette présentation. Simplement, j'ai mis en rouge, donc en fait, les notes qui vont être altérées entre le mode mixolydien mineur harmonique et la gamme majeure. Donc on marque seulement qu'il y a une adaptation mélodique, en fait, une adaptation au niveau de l'organisation intervallique entre le mode de base et la gamme majeure telle qu'elle est employée par Berrurier Noir et par les menhirs. De cette manière, le thème s'occidentalise d'une part, donc ici on a le thème du Ava Nagila en haut, et le même thème chez les menhirs en bas, avec en rouge les notes qui diffèrent. Donc le thème s'occidentalise d'une part et devient festif d'autre part. Les mouvements mélodiques et l'agencement des degrés restant cependant similaires à la source, cette dernière demeure identifiable. Un cadre référentiel culturel est donc créé et réadapté afin de donner à la matière musicale la teinte « yes future » revendiquée par le punk français. Je vous propose d'écouter, si ça fonctionne, un passage de la chanson des Ramoneurs de menhirs. Voilà. Plusieurs niveaux de tradition apparaissent en fait dans cette chanson. Le Havanagila, tout d'abord, repris et réadapté par Berruyer Noir. S'inscrivant elle-même dans une certaine tradition du punk français, cette adaptation est alors reprise par les menhirs, qui l'augmentent d'une section en langue bretonne. La musique des menhirs se définit donc comme un produit de la tradition, certes bretonne, mais aussi punk, ainsi que le déclare Laurent Berru, je cite, « Nous, on reprend de la musique traditionnelle bretonne et des standards du punk en les présentant comme des morceaux traditionnels, car le punk a une tradition, il a 40 ans quand même. » Fin de citation. Cet ancrage dans la tradition est revendiqué en exergue de toutes les chansons enregistrées du groupe. Si nous retrouvons beaucoup de musique traditionnelle arrangée, les reprises de chansons originales du XXe siècle sont elles-mêmes taxées de traditionnelles. La Blanche Hermine de Gilles Servat est ainsi nommée traditionnelle révolutionnaire, tandis qu'un morceau comme If the Kids Are United de Sham 69 est sous-titré traditionnel street punk. Bien que la synthèse des mouvances punk et bretonne tende à se concrétiser dans la musique des menhirs, le rapprochement clamé est en grande partie d'ordre idéologique. Je cite Laurent Berru. « Je pense que la fête fait partie de la culture bretonne. Les lois sécuritaires de l'État français dérangent ces fêtes-là. Ça ne correspond pas du tout à la culture bretonne de tout mettre en horaire comme le fait l'État français systématiquement. » Fin de citation. La culture bretonne est donc ici vécue comme un ancrage identitaire face à l'État français. Cependant, la Bretagne faisant partie intégrante de cet État, il lui a fallu passer par d'autres appuis culturels pour déterminer ce modèle dualiste. Je cite « L'identité bretonne en tant que construction se confond souvent avec l'identité celtique. Les mouvements interprétatifs mis en œuvre pour parvenir à cette identité comprennent le fait de désigner le langage, la musique et d'autres produits culturels comme celtiques et comme similaires à ceux d'autres peuples celtiques de Grande-Bretagne et d'Irlande. Ainsi, le concept de musique celtique est important pour la compréhension du concept de musique bretonne, en tout cas pour la majorité de ceux qui l'écoutent en Bretagne et ailleurs. Qualifier la musique bretonne de celtique implique également de l'ériger en opposition à l'influence française. » Fin de citation de Stephen Winnick. Les éléments constitutifs de la tradition bretonne sont habituellement martelés comme un inébranlable fait culturel ancestral qu'il convient donc de questionner. Dans l'album « Braise en Oc », les menhirs reprennent la chanson « Diratan », dont voici ici à gauche le texte original en partie tronquée, et à droite la traduction en français. Cette chanson est issue du « Barzaz Braise », qui est un recueil de chants bretons présentés comme traditionnels et qui a été compilé au XIXe siècle. L'édition de 1846 propose le commentaire suivant à propos de cette chanson, je cite « Au VIe siècle, les Bretons faisaient souvent des courses sur le territoire de leurs voisins soumis à la domination des Francs. Ces expéditions, entreprises le plus souvent par la nécessité de défendre leur indépendance, l'étaient aussi quelquefois par le désir de s'approvisionner chez l'ennemi de ce qui leur manquait en Bretagne. Les habitués de taverne de qui je tiens ce morceau le chantaient machinalement pour l'air plutôt que pour les paroles dont ils ne comprenaient pas les trois quarts. Et je dois déclarer franchement que ma version et ma traduction ne sont pas toujours assurées. Le Diratan semble être un hymne guerrier en l'honneur du soleil, un fragment de la chanson de l'épée des anciens bretons. Ceci, on le voit, nous rejetterait dans un siècle encore plus reculé, et même en plein paganisme. Quant à sa forme rythmique, la pièce entière est régulièrement allitérée d'un bout à l'autre, comme les chants des bardes primitifs. Les 12 premières strophes commencent chacune par une même lettre, un G, et les 7 dernières par une même lettre aussi, mais différente, par un K. Or, dans l'ancien alphabet celtique, et dans l'irlandais encore où des rameaux représentent les lettres, le G a pour signe une branche de lierre, symbole bachique assez connu, et le K un rameau de coudrier, symbole breton et gallois des défaites par l'épée. Fin de citation. Les thèmes relevés par l'auteur correspondent parfaitement au répertoire des menhirs. Indépendance face à la domination, esprit de fête, métaphore guerrière, temps immémoriaux et emploi de symboles celtiques. L'authenticité de cette anthologie est cependant contestée. Elle fut compilée par Théodore Hersard de la Villemarquée, dans une visée élitiste ayant pour but, je cite, de retracer une histoire de la Bretagne dont on ne fait alors que peu de cas dans l'histoire générale de la France, une histoire résolument ancrée dans un passé celtique qui lui donne une place dans celle de l'Europe. Fin de citation de Postic, Laurent, Simon et Veillard. Si l'origine populaire de certaines de ces chansons semble avérée, la portée de leur ancrage historique est difficilement vérifiable. Quoi qu'il en soit, le Barzaz Braise a connu une vogue importante de sa conception jusqu'à nos jours. Certaines chansons ont ainsi perduré dans le répertoire du XXe siècle, reprises notamment par des musiciens bretons renommés comme Trianne et Gilles Servat. C'est le cas de cette chanson donc du Diratan. En proposant cette adaptation, les menhirs s'approprient donc une chanson du répertoire appartenant à une tradition complexe, mais aussi du répertoire commercial et populaire. Enfin, un élément typique de la musique bretonne est ici repris. Le chant est proposé par un soliste et le rechant, donc sur même texte et même parole, le rechant est effectué par un autre groupe vocal d'une ou plusieurs personnes. Je vous propose d'écouter un chant, un rechant et un refrain du Diratone par les menhirs. Voilà. Malgré donc une forte volonté d'ancrage historique, la culture bretonne vécue est plus le fait, selon Ronan Le Quadic, d'une production que d'une reproduction, notamment par le fait que, je cite, « des pans entiers de la culture bretonne ne se reproduisent plus, simplement parce que les activités économiques auxquelles ils étaient liés ont à peu près disparu. La partie émergée de la culture bretonne, celle qui est souvent sous le feu des projecteurs, est davantage produite que reproduite. Le fest-noz, en premier lieu, a été largement réinventé. » Fin de citation de Le Quadic. Considérée ainsi, la culture bretonne contemporaine apparaît comme étant avant tout une culture actuelle, particulièrement dans ses modes de consommation et de production. À travers leur collaboration, les menhirs démontrent cependant leur attachement à une idée de la culture bretonne en tant que tradition. L'album Braise en Oc est une collaboration avec le Bagad de Quimperlé et la chanteuse Louise Ebrel. Cette dernière, née en 1932, est la fille d'Eugénie Guadec, membre du célèbre trio Les Sœurs Guadec, participante du renouveau culturel musical breton. Alan Stivell, alors producteur des Sœurs Guadec, clame la pureté celtique du chant et ses origines ancestrales liées aux musiques irlandaises, écossaises et indiennes. Ces liens avec un passé primordial n'ont évidemment pas d'assises objectives, selon Stephen Winnick. Quoi qu'il en soit, à travers cette collaboration avec Louise Ebrel, la volonté de dialogue intermusical prend aussi une teinte intergénérationnelle et les menhirs s'associent avec ce que l'on peut considérer comme un symbole vivant de la culture bretonne actuelle et d'un passé récent. Dans l'album Amser and Dispack, paru en 2010, les menhirs reprennent La Blanche Hermine de Gilles Servat, celui-ci apparaissant sur le dernier couplet et le dernier refrain. Donc ici, simplement, on a un petit tableau avec à gauche la structure de la chanson des menhirs et à droite la structure de la chanson de Gilles Servat. Dans la version originale, Gilles Servat reprend systématiquement la seconde partie du couplet antécédent pour la proposer en première partie du couplet conséquent. Donc c'est les petits carrés rouges qui apparaissent dans la colonne de droite. Cette pratique rappelle en partie celle du chant et rechant évoqué précédemment. Les menhirs ne suivent plus cette structure et adoptent un agencement linéaire des couplets, réduisant leur nombre de 7 à 4. Cela leur permet d'intégrer une structure globale plus fournie que la chanson originale, elle-même basée uniquement sur l'alternance couplet-refrain. La reprise de La Blanche Hermine casse donc la structure en partie traditionnelle de la chanson originale et réemploie notamment la mélodie du refrain en tant que transition onomatopéique à la saveur très punk. Je propose d'écouter un passage des menhirs. On vient d'entendre juste à la fin, on vient d'entendre la voix de Gilles Servat, en fait, voilà, qui fait une petite apparition sur cette reprise. Si la tradition musicale est ébranlée dans cette reprise, le choix de cette chanson a une double fonction symbolique. La Blanche Hermine a pris en Bretagne l'importance d'un hymne officieux. Cependant, dans les années 1990, cette Blanche Hermine a été récupérée par des militants d'extrême droite. Lors d'un enregistrement live de 1998 ou 98, Servat a fait précéder cette chanson d'un discours antifasciste ayant pour but non seulement de la réhabiliter, mais en plus de la positionner politiquement. En adaptant La Blanche Hermine, les menhirs s'associent d'une part à un manifeste de l'identité bretonne et d'autre part à une prise de position politique, ou du moins d'opposition politique. Le discours politique est donc présent dans la construction idéologique des menhirs de manière explicite comme au travers d'usages culturels référentiels. La tirade antifasciste de Servat, intitulé « Touche pas à la Blanche Hermine », donne le titre du disque qui est tamponné du symbole suivant. La main, logo du slogan « Touche pas à mon pote », créé par SOS Racisme en 1985, est sur fond de drapeau breton agrémenté d'une hermine. À l'intérieur de leur album Amser and Dispack, les menhirs reproduisent le symbole suivant en soutien à un groupe de conservation de la forêt de Brocéliande. Bien que le discours politique diffère, les mêmes symboles sont employés dans une volonté de conservation d'un patrimoine culturel, social ou matériel. Dans les discours militants, même aux portées éloignées, un langage culturel commun se matérialise donc dans la dimension visuelle. En fait, les albums des menhirs, truffés de dessins, offrent une vaste iconographie qui participe au discours proposé. La consommation de marijuana, par exemple, est un poncif de la moquerie ethnique touchant les Bretons, souvent présentés comme consommateurs de substances. Cependant, si cette dérision touche, selon le Quadic, une population stigmatisée négativement, elle est réemployée par les menhirs à des fins politiques. Dans la chanson Marie Janique, l'intérieur du livret du disque montre un drapeau breton dont les mouchetures ont été remplacées par des feuilles de marijuana, donc en haut à gauche du drapeau. La chanson, elle, est un traditionnel entre guillemets breton, chanté selon le principe du chant et rechant. Les deux refrains proposés jouent sur les assonances et allitérations typiques de la chanson bretonne, le second clamant une volonté de dépénalisation du cannabis. Présenté ainsi, le drapeau breton, symbole nationaliste ou régionaliste érigé contre une culture française globale, devient un étendard de la dépénalisation des drogues. Précisons cependant que la vitalité du mouvement culturel breton, je cite, « contraste fortement avec l'inexistence d'un réel mouvement politique régionaliste autonomiste ». Fin de citation de Arguindégui et Cole. Je propose d'écouter un extrait de cette chanson, donc un chant, rechant, puis un refrain.
Au jardin de mon père, Marie-Jeanne est jolie, Marie-Jeanne est jolie. Au jardin de mon père, Marie-Jeanne est jolie, Marie-Jeanne est jolie. Roulons la lambida, roulons la ridenneur, roulons la lambida, roulons la ganja. Roulons la lambida, roulons la ridenneur, roulons la lambida, roulons la ganja.
Les intérieurs des pochettes d'autres disques montrent des personnages stéréotypés, comme des punks à crête effectuant des danses bretonnes, ou des personnages bretons parfois affublés de symboles punk. Ces derniers, donc ces personnages bretons, sont en réalité le fruit d'un humour commercial préconçu, prenant racine à la fin du XXe siècle. Je cite le Quadic. L'identifiant que les humoristes contemporains utilisent de loin le plus systématiquement pour représenter les Bretons est la tenue, et en tout premier lieu la coiffe bigoudaine. Sont très présents les sabots de bois, le chapeau rond, le costume traditionnel et le béret, qui ne correspondent à aucune pratique sociale au XXIe siècle. Fin de citation. Donc on retrouve ces mêmes éléments ici. Le Quadic précise que cet humour d'autodérision, je cite, « a pour caractéristique d'être généralisant d'une part, ému par des buts lucratifs d'autre part ». Fin de citation. La construction des menhirs noue donc, à l'image de sa musique, des conceptions visuelles punk et bretonnes. Ces dernières trouvent cependant leur source dans un usage commercial, lui-même construit sur un stéréotype de dérision et d'autodérision, utilisant un imaginaire social passé pour fonder une identité ayant elle-même revêtu en quelques décennies une certaine forme de traditionnalisme. En conclusion, les ramoneurs de menhirs se revendiquent d'une multiplicité de traditions, tant culturelles qu'idéologiques ou musicales. La pluralité des symboles référentiels permet des lectures variées, tant au niveau de la genèse de leur répertoire que de sa portée patrimoniale et militante. La dimension politique, parfois très actuelle, est décelable dans leurs propos qui se réclament d'une certaine ancestralité, en réalité relativement récente et construite. En ce sens, les menhirs s'inscrivent dans une continuité de la consommation et de la création musicale. Avec les menhirs, la culture du passé est un levier de revendication pour la culture du présent, dans laquelle le ni Dieu ni maître se traduit en adouenamestre, apophtègme réunissant l'insoumission et l'identité d'une musique entièrement actuelle. Merci de votre attention.
Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui a montré une dynamique qu'on a encore assez peu vue aujourd'hui. On a vu plus des sous-cultures ou des nouvelles, sous-genres ou des nouveaux genres. Donc là, on a vraiment vu ce phénomène d'hybridation. De deux styles différents qui se modifient l'un l'autre. Donc, je prends les questions maintenant.
Alors, ça, c'est pour l'équipe on t'a trouvé un copain dans notre équipe qui est Olivier Miglior, qui était un peu qui est un musicologue. Je sais pas si tu connais Olivier Miglior.
Non.
Alors Olivier Miglior, il est dans notre équipe, il est donc musicologue, il a fait un vrai, tu vois. Il a fait sa thèse sur la prosodie musicale. Sur...
Il y a des faux musicologues.
Non, mais moi par exemple, je suis musicologue, mais je fais de l'histoire de la musique, donc je suis une fausse. Et donc il travaille sur la prosodie musicale. Il a fait sa thèse sur un corpus de rap, de reggae, je crois, et de punk en France. Et enfin voilà, donc je pense que vous auriez pas mal de choses à vous dire parce que vous avez des méthodes d'analyse qui sont pas tout à fait les mêmes, mais je pense qu'il y aurait, il pourrait tout à fait passer dans son logiciel la prosodie musicale des Ramoneurs. Enfin, en tout cas, il y a de quoi lancer un chantier là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je te remercie beaucoup parce que ça donne un éclairage bien plus puissant que quand on écoute la Blanche Hermine en sautant partout. Enfin, maintenant, je pense qu'on n'ira plus au concert tout à fait de la même façon. Voilà, je te remercie vraiment beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est donc une remarque, hein, pas une question.
Merci.
Une question.
En fait, aujourd'hui, on essaie de battre le record d'être en avance, donc tout le monde accélère.
Peut-être une petite question. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on rentre dans ces questions de logique d'identité, de politisation des identités, vraiment avec ce cas-là. Et puis, justement, je voulais. Et on voit en même temps comment, avec les Ramoneurs de Menhir, il y a à la fois une revendication locale, mais qui est aussi mise en perspective avec d'autres identités locales, comme la Palestine, qui fait que voilà, c'est pas un truc uniquement derrière chez soi. Et puis, justement, je voulais. Si tu pouvais revenir un peu plus sur comment. Quel sens est donné à cette identité bretonne, quelles sont vraiment les valeurs importantes qu'ils leur donnent, les Ramoneurs de Menhir, et aussi comment ce sens qu'ils leur donnent là est globalement un peu partagé dans la société au-delà de la scène punk. Voilà.
Alors, j'ai écumé pas mal d'interviews des Ramoneurs de Menhir pour préparer cette présentation, et notamment de Laurent. En général, c'est lui qui prend la parole. Et il dit une chose assez parlante. C'est, un journaliste, à un moment, lui demande « Mais en fait, ça veut dire quoi, ramener un menhir ?» Qu'est-ce que ça signifie? Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Et lui, il dit que ramener un menhir, ça signifie réactiver la féerie. C'est un peu ça, son idée à lui. C'est redonner vie au Corrigan, à la magie, en fait, qu'il y a là derrière. Et il se positionne lui-même en tant que barde. Je crois qu'il se définit en tant que barde, ayant pour but, pour volonté de réunir, en fait, de rassembler. Alors après, moi, ce que j'ai voulu montrer un petit peu dans cette présentation, c'est aussi que cet imaginaire-là, il est quand même en grande partie construit et il est vraiment pas fondé sur cette question ancestrale. On imagine quelque chose qui, d'une sorte d'humanité primitive quand on entend ce genre de discours. Et finalement, c'est quelque chose de... En tout cas, dans la manière dont on le conçoit actuellement, c'est quelque chose de relativement récent. Surtout que, comme le disait le Quadic, justement, même même la manière de vivre le fest-noz a beaucoup changé. Aujourd'hui, si vous allez à un fest-noz, le groupe sera sur scène, il va jouer sur scène, les gens vont danser devant la scène, etc. etc. Je crois que le fest-noz, à l'origine, en fait, il n'y avait pas de scène, les gens dansaient un petit peu tout autour. Enfin, voilà, disons, c'était une manière de consommer ce genre de musique, ce genre de danse, etc., qui était totalement, totalement différente. Voilà. Ensuite, si on va sur le site des Ramoneurs de Menhir, on peut voir leur fiche technique et tout ce qu'ils demandent aux organisateurs de concerts chez lesquels ils vont se produire. Et ils ont leur propre staff de sécurité. Donc ils demandent aux... je ne sais pas comment on appelle ça en France. Hein, ils demandent aux représentants de l'ordre, je ne sais pas comment on appelle ça, aux services d'ordre, voilà. D'accord, ouais. Donc ils demandent aux services d'ordre, en fait, d'aller vers leur personnel de sécurité à eux pour qu'ils soient briefés. Voilà. Donc ils ont leur propre service de sécurité. Ils disent que ils revendiquent le fait que le pogo soit autorisé, et ils revendiquent le fait que les gens soient autorisés à monter sur scène, et notamment les enfants. Et c'est assez amusant parce qu'ils disent en plus sur scène les enfants seront plus en sécurité que dans le public. Donc voilà. Donc il y a quand même un mélange, à mon avis, il y a un réel mélange en fait entre il y a une revendication bretonne, il y a une revendication punk, mais il y a aussi un petit peu un mélange de tout ça dans le cadre festif, notamment ce rassemblement est justement revendiqué en fait par les membres des Ramoneurs et notamment de Laurent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, mais en fait, tu as en partie répondu à la question parce que je me posais justement, enfin, je m'interrogeais sur la forme d'idéalisation en fait qui était autour de cette réactivation de la culture bretonne traditionnelle. Enfin, juste deux remarques. Faut pas oublier que dans les années 70, les gens ont survalorisé la modernité et que en gros, la tradition c'était plouc, quoi. Hein. Enfin, faut pas. Et Alan Stivell était perçu comme un plouc, hein, globalement. Hein. Donc on en est revenu. Et la deuxième chose qui est plus embêtante dans la mémoire bretonne, c'est les connexions entre un segment des autonomistes et puis les nazis, hein, puisque les nazis leur avaient promis l'autonomie et que les types, il a fallu qu'ils s'exilent après en Angleterre, hein, et ailleurs. Hein. Donc je me dis aujourd'hui, faut vivre avec ce passé-là et recomposer justement une identité bretonne sur une tradition très largement réinventée. Moi, pour avoir dirigé une thèse sur le Gouren, sur la lutte bretonne, on voit bien de quelle façon les gens ont totalement réinventé le récit, hein, de cette lutte traditionnelle et recomposé un petit peu un idéal. Donc, mais en fait, t'as répondu à la question sur le... Ça me semble très largement idéalisé, hein, le discours, les corrigants, mais c'est exactement ça. Et,
c'est une idéalisation, vraiment.
Et franchement, c'est hyper respectable et vraiment... voilà. Nous, on avait simplement fait une remarque, parce qu'avec Solveig, on a travaillé sur la question de genre et de punk, que quand on reprend La Blanche Hermine, on se rend compte que les rôles en termes de genre sont quand même très stéréotypés, parce que le type, il part à la guerre pendant que sa copine attend sur le pas de la porte. Quoi, hein, donc, c'est pas franchement émancipateur pour les nanas. Quoi.
Ouais, mais il a été... Donc, La Blanche Hermine, c'est une chanson qui date, je crois, il faudrait vérifier, mais qui doit dater de 1978 et 78. Voilà. Et sauf erreur, il y a quelques années, ou il y a quelques dizaines d'années, je ne sais pas, Serva s'était fait un petit peu taper sur les doigts. On lui avait dit, mais écoute, ta chanson quand même... Voilà quoi, au niveau des rôles dans la société, il y a quelque chose d'un petit peu... Voilà. Et du coup, il avait retravaillé son texte, en fait, il l'avait retravaillé. Après, moi, ce qui m'étonne passablement avec cette chanson, c'est qu'il y a quand même un côté guerrier à l'intérieur. Et en fait, dans beaucoup de musique bretonne, dans beaucoup de chansons des Ramoneurs de Menhir, même dans celles qui ont été reprises des Bérus, etc., il y a un côté guerrier qui est quand même là, et qui parfois... est un peu étonnant en fait par rapport au discours qu'on peut avoir, qui est plutôt un discours souvent rassembleur ou en partie pacifiste qui gravite autour un petit peu de cet univers-là. Voilà.
Moi j'ai trouvé ta présentation très intéressante, mais je voulais savoir, moi j'irais même plus loin que ce que dit Luc en fait, je trouve que c'est exactement la même chose que cette tendance qu'il y a eu à un moment à la fin des années 80 avec des groupes souvent d'inspiration punk au départ et qui voulaient renouer avec une culture populaire qui était morte et avec aussi un univers de quartier qui serait mort. Alors je pensais à deux groupes emblématiques, les Endimanchés qui reprenaient des chansons un peu populaires dans un milieu punk et qui eux-mêmes avaient aucune culture punk à la base ou très peu. Et puis surtout Pigalle qui a voulu remettre au goût du jour la Java, ce genre de choses. Et je trouve que chez les Ramoneurs de Menhir, il y a la même chose et je voulais vraiment te demander ton avis personnel. Finalement, moi je trouve ça extrêmement réac. Parce que c'est vouloir absolument qu'un passé totalement révolu serait finalement jamais mort ou que en fait le cœur de la culture serait vraiment là, que ça serait ça l'authenticité. Et en fait, bon, j'aime beaucoup Laurent que je connais depuis très longtemps, mais je trouve que comme tu le dis, il fabrique un objet qui finalement me semble tenir plus du musée que de la culture vivante.
Alors c'est une question. Ça aurait pu faire une présentation, ça pourrait même faire un colloque en soi, je pense, cette question-là. C'est pas nouveau que la recherche du passé et de l'ancestralité pose des problèmes, en fait. Comment est-ce que ça s'appelle ? Il y a un dictionnaire du punk sur Internet, ou je sais... Je sais plus. Voilà, il y a une référence sur Internet dans laquelle on reprend... Il y a un texte de Barbedette qui est repris, qui dit que, justement, il y a un grand danger dans le fait... Enfin, il parle du régionalisme. Voilà, il y a un article sur le régionalisme, dans lequel lui défend le régionalisme, mais pas toute forme de régionalisme. Et il trouve très dangereux le régionalisme qui consiste à voir dans un passé primordial, disons, l'essence d'une société idéale, en fait. Et effectivement, c'est un... Parce que finalement, ce qu'il va dire par rapport à ça, c'est que ça va amener à occulter toute la réalité actuelle. Donc, tandis que, comme je l'ai compris, son idée du régionalisme à lui, c'est de vivre sa région, mais quand même en ayant conscience qu'elle est inscrite dans un État plus vaste et qu'elle n'est pas forcément en opposition totale à cet État, mais que c'est une région qui va vivre par elle-même à l'intérieur de cet État. Alors après, pour ce qui est des menhirs, il faudrait que Laurent nous en parle. Ce serait peut-être le mieux placé pour nous parler de sa perception de tout ça.
Voilà, encore merci beaucoup. Et malheureusement, on va passer à la suite, ou s'il y a d'autres questions. Et donc, avant de passer aux deux dernières interventions, surprise, il y a une nouvelle chanson du Pinned Unplugged.
Petit Papa Noël. Merci.
Merci beaucoup. Et donc là, on passe à la présentation de Nicolas Lahaye, sans transition, qui enseigne le français. Il a fait une thèse sur les nanars. Il nous dira le titre s'il a envie. Et c'est aussi un membre de l'équipe PIND, presque un cadre. La preuve, c'est lui qui a porté les crevettes aujourd'hui à midi, alors qu'il a peur des algues.
C'est pas moi, c'est Brigitte. Bon, Michel n'est pas là, Michel. Et ouais. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, public. Ça va? Alors, je viens de regarder un petit détail. J'ai fait l'effort de mettre des captures d'écran de films dans mon PowerPoint et j'ai l'impression qu'en termes de... comment dire, de luminosité, toutes mes images sont sous-exposées. Non, mais c'est surtout sur les images pour l'instant. Ça va... Donc on va voir si ça marche. Mais j'espère que sur les dernières, voilà, vous allez pouvoir voir des choses parce qu'il y a un petit film mexicain dont vous me direz des nouvelles. Ça n'a pas forcément été très, très simple de réfléchir sur cette question, en tout cas du punk au cinéma, parce que forcément c'est une histoire... très 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 confuse, parce que quand on parle du punk, déjà il y a beaucoup dans le milieu de la musique, mais au cinéma il y en a aussi, des abus de langage sur le punk. Qu'on parle du mouvement musical punk au cinéma, ou tout simplement de la silhouette du punk qu'on va mettre devant l'écran. Le punk, okay, il y avait le bon ou le mauvais chasseur, et il y a aussi la question de se poser si le punk, quand on le met à l'écran, c'est une figure amie ou ennemie. Moi, ce que je pourrais dire en introduction, c'est qu'il apparaît autant comme une promesse d'évasion, une promesse de danger ou de sauvagerie, donc petite dédicace à OTH. Et plus simplement, le punk, est-ce que...